Chapitre 13. Congrès de Rastatt. Retour de Napoléon en France. Napoléon est nommé chef de l'armée dite d'Angleterre. Il part pour l'expédition d'Égypte. Un congrès étant rassemblé à Rastatt et Bonaparte ayant été nommé par le directoire représentant à ce congrès, il prit congé de l'armée d'Italie. « Je ne serai consolé, lui dit-il, que par l'espoir de me revoir bientôt avec vous, luttant contre de nouveaux dangers. » Le 16 novembre 1797, son ordre du jour annonce qu'il a quitté Milan pour présider la légation française au Congrès et qu'il a envoyé au directoire le drapeau de l'armée d'Italie. Sur un des côtés de ce drapeau, Bonaparte avait fait broder ce résumé de ses conquêtes. 150 000 prisonniers, 17 000 chevaux, 550 pièces de siège, 600 pièces de campagne, 5 équipages de pont, 9 vaisseaux de 54 canons, 12 frégates de 32, 12 corvettes, 18 galères. Armistice avec le roi de Sardaigne, convention avec Gênes. Armistice avec le duc de Parme, avec le duc de Modène, avec le roi de Naples, avec le pape. Préliminaire de Léoben. Convention de Montebello avec la République de Gênes. Traité de paix avec l'empereur à Campo Formio. Donner la liberté au peuple de Bologne, Ferrare, Modène, Massa Carrara, de la Romagne, de la Lombardie, de Brescia, de Bergame, de Mantoue, de Crème, d'une partie du Véronais, de Cevena, Bormio et de la Valteline. Au peuple de Gênes, aux fiefs impériaux, au peuple des départements de Corcyre, de la mer Égée et d'Ithaque. Envoyez à Paris tous les chefs-d'œuvre de Michel-Ange, du Guerchin, du Titien, de Paul Véronèse, Corrège, Alban, des Caracci, Raphaël, Léonard de Vinci, etc., etc. Ce monument de l'armée d'Italie, dit l'ordre du jour, sera suspendu aux voûtes de la salle des séances publiques du directoire, et il attestera les exploits de nos guerriers quand la génération présente aura disparu. Après une convention purement militaire qui stipulait la remise de Mayence aux troupes de la République et la remise de Venise aux troupes autrichiennes, Bonaparte quitta Rastatt et laissa la suite des affaires du Congrès aux mains de Trélard et de Bonnier. Dans les derniers temps de la campagne d'Italie, Bonaparte eut beaucoup à souffrir de l'envie de divers généraux et du directoire. Deux fois, il avait offert sa démission. Les membres du gouvernement la désiraient et n'osaient l'accepter. Les sentiments de Bonaparte ne suivaient pas le penchant du siècle. Ils cédaient à contre-cœur aux intérêts nés de la Révolution. De là les contradictions de ses actes et de ses idées. De retour à Paris, il descendit dans sa maison, rue Chantereine, qui prit et porte encore le nom de rue de la Victoire. Le Conseil des Anciens voulut faire à Napoléon le don de Chambord, ouvrage de François Ier qui ne rappelle plus que l'exil du dernier fils de Saint-Louis. Bonaparte fut présenté au directoire le 10 décembre 1795. Entre parenthèses, Chateaubriand se trompe sur la date. Il s'agit bien de 1797. Dans la cour du palais du Luxembourg. Au milieu de cette cour s'élevait un autel de la patrie, surmonté des statues de la liberté, de l'égalité et de la paix. Les drapeaux conquis formaient un dais au-dessus des 5 directeurs habillés à l'antique. L'ombre de la victoire descendait de ces drapeaux, sous lesquels la France faisait halte un moment. Bonaparte était vêtu de l'uniforme qu'il portait à Arcole et à Lodi. Monsieur de Talleyrand reçut le vainqueur auprès de l'autel, se souvenant d'avoir naguère dit la messe sur un autre autel. Fuyard, revenu des États-Unis, chargé par la protection de Chénier, du ministère des Relations extérieures, l'évêque d'Autun, le sabre au côté, était coiffé d'un chapeau à la Henri IV. Les événements forçaient de prendre au sérieux ces travestissements. Le prélat fit l'éloge du conquérant de l'Italie. « Il aime, dit-il mélancoliquement, il aime les champs d'Ossian, surtout parce qu'il détache de la terre. Loin de redouter ce qu'on appelle son ambition, il nous faudra peut-être la solliciter un jour pour l'arracher aux douceurs de sa studieuse retraite. La France entière sera libre, peut-être lui ne le sera jamais, telle est sa destinée. » Merveilleusement deviné. Le frère de Saint-Louis à Grandelia, Charles VIII à Fornoux, Louis XII à Agnadelle, François Ier à Marignan, Lautrec à Ravenne, Catinat à Turin, demeure loin du nouveau général. Les succès de Napoléon n'eurent point de pavis. Les directeurs, redoutant ce despotisme supérieur qui menaçait tous les despotismes, avaient vu avec inquiétude les hommages que l'on rendait à Napoléon. Ils songeaient à se débarrasser de sa présence. Ils favorisèrent la passion qu'il montrait pour une expédition dans l'Orient. Ils disaient « L'Europe est une taupinière. Il n'y a jamais eu de grands empires et de grandes révolutions qu'en Orient. Je n'ai déjà plus de gloire. Cette petite Europe n'en fournit pas assez. » Napoléon, comme un enfant, était charmé d'avoir été élu membre de l'Institut. Il ne demandait que 6 ans pour aller aux Indes et pour en revenir. « Nous n'avons que 29 ans, remarquait-il en songeant à lui. Ce n'est pas un âge. J'aurai 35 ans à mon retour. » Nommé général d'une armée dite de l'Angleterre, dont les corps étaient dispersés de Brest à Anvers, Bonaparte passa son temps à des inspections, à des visites aux autorités civiles et scientifiques, tandis qu'on assemblait les troupes qui devaient composer l'armée d'Égypte. Survint l'échauffourée du drapeau tricolore et du bonnet rouge, que notre ambassadeur à Vienne, le général Bernadotte, avait planté sur la porte de son palais. Le directoire se disposait à retenir Napoléon pour l'opposer à la nouvelle guerre possible, lorsque M. de Cobenzel prévint la rupture et Bonaparte reçut l'ordre de partir. L'Italie devenue républicaine, la Hollande transformée en république, la paix laissant à la France, étendue jusqu'au Rhin des soldats inutiles, dans sa prévoyance peureuse, le directoire s'empressa d'écarter le vainqueur. Cette aventure d'Égypte change à la fois la fortune et le génie de Napoléon en surdorant ce génie, déjà trop éclatant, d'un rayon du soleil qui frappa la colonne de nuée et de feu. Chapitre 14. Expédition d'Égypte, Malte, bataille des pyramides, Le Caire, Napoléon dans la grande pyramide, Suez. Toulon, 19 mai 1798. Proclamation. Soldats, vous êtes une des ailes de l'armée d'Angleterre. Vous avez fait la guerre de montagnes, de plaines, de sièges. Il vous reste à faire la guerre maritime. Les légions romaines, que vous avez quelquefois imitées, mais pas encore égalées, combattaient Carthage tour à tour sur cette même mer et aux plaines de Zama. La victoire ne les abandonna jamais, parce que constamment elles furent braves, patientes à supporter la fatigue, disciplinées et unies entre elles. Soldats, l'Europe a les yeux sur vous. Vous avez de grandes destinées à remplir, des batailles à livrer, des dangers, des fatigues à vaincre. Vous ferez plus que vous n'avez fait pour la prospérité de la patrie, le bonheur des hommes et votre propre gloire. Après cette proclamation de souvenir, Napoléon s'embarque. On dirait d'Homère ou du héros qui enfermait les chants du Méonide dans une cassette d'or. Cet homme ne chemine pas tout doucement. À peine a-t-il mis l'Italie sous ses pieds qu'il paraît en Égypte. Épisode romanesque dont il agrandit sa vie réelle. Comme Charlemagne, il attache une épopée à son histoire. Dans la bibliothèque qu'il emporta se trouvaient Ossian, Werther, la Nouvelle Héloïse et le Vieux Testament. Indication du chaos de la tête de Napoléon. Il mêlait les idées positives et les sentiments romanesques, les systèmes et les chimères, les études sérieuses et les emportements de l'imagination, la sagesse et la folie. De ces productions incohérentes du siècle, il tira l'Empire, songe immense mais rapide, comme la nuit désordonnée qu'il avait enfantée. Entré dans Toulon le 9 mai 1798, Napoléon descend à l'hôtel de la Marine. 10 jours après, il monte sur le vaisseau amiral l'Orient. Le 19 mai, il met à la voile. Il part de la borne où pour la première fois il avait répandu le sang, et un sang français. Les massacres de Toulon l'avaient préparé au massacre de Jaffa. Il menait avec lui les généraux premiers-nés de sa gloire, Berthier, Caffarelli, Kléber, Desaix, Lannes, Murat, Menou. 13 vaisseaux de ligne, 14 frégates, 400 bâtiments de transport l'accompagnent. Nelson le laissa échapper du port et le manqua sur les flots, bien qu'une fois nos navires ne fussent qu'à 6 lieues de distance des vaisseaux anglais. De la mer de Sicile, Napoléon aperçut le sommet des Apennins. Il dit « Je ne puis voir sans émotion la terre d'Italie. Voilà l'Orient, j'y vais. » À l'aspect de l'Ida, explosion d'admiration sur Minos et la sagesse antique. Dans la traversée, Bonaparte se plaisait à réunir les savants et provoquait leurs disputes. Il se rangeait ordinairement à l'avis du plus absurde ou du plus audacieux. Il s'enquérait si les planètes étaient habitées, quand elles seraient détruites par l'eau ou par le feu, comme s'il eût été chargé de l'inspection de l'armée céleste. Il aborde à Malte, déniche la vieille chevalerie retirée dans le trou d'un rocher marin, puis il descend parmi les ruines de la cité d'Alexandre. Il voit à la pointe du jour cette colonne de Pompée que j'apercevais du bord de mon vaisseau en m'éloignant de la Libye. Du pied du monument, immortalisé d'un grand et triste nom, il s'élance. Il escalade les murailles derrière lesquelles se trouvait jadis le dépôt des remèdes de l'âme et les aiguilles de Cléopâtre, maintenant couchées à terre parmi des chiens maigres. La porte de Rosette est forcée. Nos troupes se ruent dans les deux havres et dans le phare. Égorgement effroyable. L'adjudant général Boyer écrit à ses parents. Les Turcs, repoussés de tous côtés, se réfugient chez leurs dieux et leurs prophètes. Ils remplissent leurs mosquées, hommes, femmes, vieillards, jeunes et enfants. Tous sont massacrés. Bonaparte avait dit à l'évêque de Malte « Vous pouvez assurer vos diocésains que la religion catholique, apostolique et romaine sera non seulement respectée, mais ses ministres spécialement protégés. » Il dit, en arrivant en Égypte, « Peuple d'Égypte, je respecte plus que les Mamelouks, Dieu, son prophète et le Coran. Les Français sont amis des musulmans. Naguère, ils ont marché sur Rome et renversé le trône du pape, qui aigrissait les chrétiens contre ceux qui professent l'islamisme. Bientôt après, ils ont dirigé leur course vers Malte et en ont chassé les incrédules qui se croyaient appelés de Dieu pour faire la guerre aux musulmans. Si l'Égypte est la ferme des Mamelouks, qu'ils montrent le bail que Dieu leur en a fait. » Napoléon marche aux pyramides. Il crie à ses soldats « Songez que du haut de ces monuments, 40 siècles ont les yeux fixés sur vous. » Il entre au Caire, sa flotte saute en l'air à Aboukir. L'armée d'Orient est séparée de l'Europe. Julien de la Drôme, fils de Julien le Conventionnel, témoin du désastre, le note minute par minute. Il est 7 heures. La nuit se fait et le feu redouble encore. À 9 heures et quelques minutes, le vaisseau a sauté. Il est 10 heures, le feu se ralentit et la lune se lève à droite du lieu où vient de s'élever l'explosion du vaisseau. Bonaparte, au Caire, déclare au chef de la loi qu'il sera le restaurateur des mosquées. Il envoie son nom à l'Arabie, à l'Éthiopie, aux Indes. Le Caire se révolte. Il le bombarde au milieu d'un orage. L'inspiré dit aux croyants « Je pourrais demander à chacun de vous compte des sentiments les plus secrets de son cœur, car je sais tout, même ce que vous n'avez dit à personne. » Le grand shérif de la Mecque le nomme, dans une lettre, le protecteur de la Kaaba. Le pape, dans une missive, l'appelle « mon très cher fils ». Par une infirmité de nature, Bonaparte préférait souvent son côté petit à son grand côté. La partie qu'il pouvait gagner d'un seul coup ne l'amusait pas. La main qui brisait le monde se plaisait au jeu des gobelets, sûr quand il usait de ses facultés de se dédommager de ses pertes. Son génie était le réparateur de son caractère. Que ne se présenta-t-il tout d'abord comme l'héritier des chevaliers ? Par une position double, il n'était, aux yeux de la multitude musulmane, qu'un faux chrétien et qu'un faux mahométan. Admiré des impiétés de système, ne pas reconnaître ce qu'elles avaient de misérable, c'est se tromper misérablement. Il faut pleurer quand le géant se réduit à l'emploi du grimacier. Les infidèles proposèrent à Saint-Louis, dans les fers, la couronne d'Égypte. Parce qu'il était resté, disent les historiens arabes, le plus fier chrétien qu'on ait jamais vu. Quand je passais au Caire, cette ville conservait des traces des Français. Un jardin public, notre ouvrage était planté de palmiers. Des établissements de restaurateurs l'avaient jadis entouré. Malheureusement, de même que les anciens Égyptiens, nos soldats avaient promené un cercueil autour de leur festin. Quelle scène mémorable, si l'on pouvait y croire. Bonaparte assis dans l'intérieur de la pyramide de Khéops, sur le sarcophage d'un pharaon dont la momie avait disparu, et causant avec les mouftis et les imams. Toutefois, prenons le récit du moniteur, comme le travail de la muse. Si ce n'est pas l'histoire matérielle de Napoléon, c'est l'histoire de son intelligence. Cela en vaut encore la peine. Écoutons, dans les entrailles d'un sépulcre, cette voix que tous les siècles entendront. Moniteur, 27 novembre 1798. Ce jour-d'hui, 25 thermidor de l'an 6 de la République française une et indivisible, répondant au 28 de la lune de Moucharim, l'an de l'Égir 1213, le général en chef, accompagné de plusieurs officiers de l'état-major de l'armée et de plusieurs membres de l'Institut national, s'est transporté à la grande pyramide dite de Khéops, dans l'intérieur de laquelle il était attendu par plusieurs mouftis et imams chargés de lui en montrer la construction intérieure. La dernière salle, à laquelle le général en chef est parvenu, est à voûte plate, est longue de 32 pieds sur 16 de large et 19 de haut. Il n'y a trouvé qu'une caisse de granit d'environ 8 pieds de long sur 4 d'épaisseur qui renfermait la momie d'un pharaon. Il s'est assis sur le bloc de granit, a fait asseoir à ses côtés les mouftis et imams, sous les imams, Ibrahim et Mohammed, et il a eu avec eux, en présence de sa suite, la conversation suivante. Bonaparte. Dieu est grand et ses œuvres sont merveilleuses. Voici un grand ouvrage de main d'homme. Quel était le but de celui qui fit construire cette pyramide ? Souleyman. C'était un puissant roi d'Égypte, dont on croit que le nom était Khéops. Il voulait empêcher que des sacrilèges ne vinssent troubler le repos de sa cendre. Bonaparte. Le grand Cyrus se fit enterrer en plein air pour que son corps retournât aux éléments. Penses-tu qu'il ne fit pas mieux ? Le penses-tu ? Souleyman s'inclinant. Gloire à Dieu, à qui toute gloire est due. Bonaparte. Gloire à Allah, il n'y a point d'autre Dieu que Dieu. Mohammed est son prophète et je suis de ses amis. » Ibrahim : Que les anges de la victoire balayent la poussière sur ton chemin et te couvrent de leurs ailes. Le Mamelouk a mérité la mort. Bonaparte : Il a été livré aux anges noirs, Moukir et Karkir. Souleyman : Il étendit les mains de la rapine sur les terres, les moissons, les chevaux de l'Égypte. Bonaparte : Les trésors, l'industrie et l'amitié des Francs seront votre partage, en attendant que vous montiez au septième ciel et qu'assis aux côtés des houris aux yeux noirs, toujours jeunes et toujours vierges, vous vous reposiez à l'ombre du Laba, dont les branches offriront d'elles-mêmes aux vrais musulmans tout ce qu'ils pourront désirer. De telles parades ne changent rien à la gravité des pyramides. 20 siècles descendus dans l'éternelle nuit, ils sont sans mouvement, sans lumière et sans bruit. Bonaparte, en remplaçant Khéops dans la crypte séculaire, en aurait augmenté l'immensité. Mais il ne s'est jamais traîné dans ce vestibule de la mort. Pendant le reste de notre navigation sur le Nil, dis-je dans l'itinéraire, je demeurai sur le pont à contempler ces tombeaux. Les grands monuments font une partie essentielle de la gloire de toute société humaine. Ils portent la mémoire d'un peuple au-delà de sa propre existence et le font vivre contemporain des générations qui viennent s'établir dans ces champs abandonnés. Remercions Bonaparte, aux pyramides, de nous avoir si bien justifiés, nous autres, petits hommes d'État entachés de poésie, qui maraudons de chétifs mensonges sur des ruines. D'après les proclamations, les ordres du jour, les discours de Bonaparte, il est évident qu'il visait à se faire passer pour l'envoyé du ciel, à l'instar d'Alexandre. Callisthène, à qui le Macédonien infligea dans la suite un si rude traitement, en punition sans doute de la flatterie du philosophe, fut chargé de prouver que le fils de Philippe était fils de Jupiter. C'est ce que l'on voit dans un fragment de Callisthène conservé par Strabon. Le pourparler d'Alexandre, de Pasquier, est un dialogue des morts entre Alexandre, le grand conquérant, et Rabelais, le grand moqueur. « Cours-moi de l'œil, » dit Alexandre à Rabelais. « Toutes ces contrées que tu vois être en ces bas-lieux, tu ne trouveras aucun personnage d'étoffe qui, pour autoriser ses pensées, n'ait voulu donner à entendre qu'il eût familiarité avec les dieux. » Rabelais répond, « Alexandre, pour te dire le vrai, je ne m'amuserai jamais à reprendre tes petites particularités, mêmement en ce qui appartient au vin. » Mais quel profit sens-tu de ta grandeur maintenant? En es-tu autre que moi? Le regret que tu as te doit causer telle fâcherie qu'il te serait beaucoup plus expédient qu'avec ton corps tu eusses perdu la mémoire. » Et pourtant, en s'occupant d'Alexandre, Bonaparte se méprenait et sur lui-même et sur l'époque du monde et sur la religion. Aujourd'hui, on ne peut se faire passer pour un dieu. Quant aux exploits de Napoléon dans le Levant, il n'était pas encore mêlé à la conquête de l'Europe. Il n'avait pas obtenu d'assez hauts résultats pour imposer à la foule islamiste, quoi qu'on le surnommât, le sultan de feu. Alexandre, à l'âge de 33 ans, dit Montaigne, avait passé victorieux toute la terre habitable, et, dans une demi-vie, avait atteint tout l'effort de l'humaine nature. Plus de rois et de princes ont écrit ses gestes que d'autres historiens n'ont écrit les gestes d'autres rois. Du Caire, Bonaparte se rendit à Suez. Il vit la mer couvrir Moïse et qui retomba sur Pharaon. Il reconnut les traces d'un canal que commença Sésostris, qu'élargirent les Perses, que continua le second des Ptolémées, que réentreprirent les Soudans dans le destin de porter à la Méditerranée le commerce de la mer Rouge. Il projeta d'amener une branche du Nil dans le golfe arabique. Au fond de ce golfe son imagination traça l'emplacement d'un nouvel ophir où se tiendrait tous les ans une foire pour les marchands de parfums, d'aromates, d'étoffes de soie, pour tous les objets précieux de Mascate, de la Chine, de Ceylan, de Sumatra, des Philippines et des Indes. Les cénobites descendent du Sinaï et le prient d'inscrire son nom auprès de celui de Saladin dans le livre de leur garantie. Revenu au Caire, Bonaparte célèbre la fête anniversaire de la fondation de la République en adressant ses paroles à ses soldats. Il y a 5 ans, l'indépendance du peuple français était menacée. Mais vous prîtes, Toulon. Ce fut le présage de la ruine de vos ennemis. 1 an après, vous battiez les Autrichiens à Dego. L'année suivante, vous étiez sur le sommet des Alpes. Vous luttiez contre Mantoue, il y a 2 ans, et vous remportiez la célèbre victoire de Saint-Georges. L'an passé, vous étiez aux sources de la Drave et de l'Isonzo, de retour de l'Allemagne. Qui eût dit alors que vous seriez aujourd'hui sur les bords du Nil, au centre de l'ancien continent? Chapitre 15. Opinion de l'armée. Mais Bonaparte, au milieu des soins dont il était occupé et des projets qu'il avait conçus, était-il réellement fixé dans ses idées? Tandis qu'il avait l'air de vouloir rester en Égypte, la fiction ne l'aveuglait pas sur la réalité. Et il écrivait à Joseph, son frère, « Je pense être en France dans 2 mois. Fais en sorte que j'aie une campagne à mon arrivée, soit près de Paris ou en Bourgogne. Je compte y passer l'hiver. » Bonaparte ne calculait point ce qui pouvait s'opposer à son retour. Sa volonté était sa destinée et sa fortune. Cette correspondance, tombée aux mains de l'amirauté, les Anglais ont osé avancer que Napoléon n'avait eu d'autre mission que de faire périr son armée. Une des lettres de Bonaparte contient des plaintes sur la coquetterie de sa femme. Les Français en Égypte étaient d'autant plus héroïques qu'ils sentaient vivement leurs maux. Un maréchal des logis écrit à l'un de ses amis, dit à Ledoux qu'il n'est jamais la faiblesse de s'embarquer pour venir dans ce maudit pays. Avrillerie. Tous ceux qui viennent de l'intérieur disent qu'Alexandrie est la plus belle ville. Hélas, que doit donc être le reste? Figurez-vous un amas confus de maisons mal bâties à un étage, les belles avec terrasses, petites portes en bois, serrures, idem, point de fenêtre, mais un grillage en bois, si rapproché qu'il est impossible de voir quelqu'un au travers. Rues étroites, hormis le quartier des Francs et le côté des Grands. Les habitants pauvres, qui forment le plus grand nombre, au naturel, hormis une chemise bleue jusqu'à mi-cuisse, qu'ils retroussent la moitié du temps dans leurs mouvements, une ceinture et un turban de guenilles. J'ai de ce charmant pays jusque par-dessus la tête. Je m'enrage d'y être. La maudite Égypte, sable partout, que de gens attrapés, cher ami. Tous ces faiseurs de fortune, ou bien tous ces voleurs, ont le nez bas. Ils voudraient retourner d'où ils sont partis, je le crois bien. Rosie, capitaine, nous sommes très réduits. Avec cela, il existe un mécontentement général dans l'armée. Le despotisme n'a jamais été au point qu'il l'est aujourd'hui. Nous avons des soldats qui se sont donné la mort en présence du général en chef en lui disant « Voilà ton ouvrage ». Le nom de Tallien terminera la liste de ces noms, aujourd'hui presque inconnus. Tallien à Madame Tallien. Quant à moi, ma chère amie, je suis ici, comme tu le sais, bien contre mon gré. Ma position devient chaque jour plus désagréable, puisque séparée de mon pays, de tout ce qui m'est cher, je ne prévois pas le moment où je pourrais m'en approcher. Je te l'avoue bien franchement, je préférerais 1000 fois être avec toi et ta fille retirés dans un coin de terre, loin de toutes les passions, de toutes les intrigues. Et je t'assure que si j'ai le bonheur de retoucher le sol de mon pays, ce sera pour ne le quitter jamais. Parmi les 40 000 Français qui sont ici, il n'y en a pas 4 qui pensent autrement. rien de plus triste que la vie que nous menons ici. Nous manquons de tout. Depuis 5 jours, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis couché sur le carreau. Les mouches, les punaises, les fourmis, les cousins, tous les insectes nous dévorent. Et 20 fois chaque jour, je regrette notre charmante chaumière. Je t'en prie, ma chère amie, ne t'en défais pas. Adieu, ma bonne Thérésia, les larmes inondent mon papier. Les souvenirs les plus doux de ta bonté, de notre amour, l'espoir de te retrouver toujours aimable, toujours fidèle, d'embrasser ma chère fille, soutiennent seule l'infortunée. La fidélité n'était pour rien dans tout cela. Cette unanimité de plainte est l'exagération naturelle d'hommes tombés de la hauteur de leurs illusions. De tout temps, les Français ont rêvé l'Orient. La chevalerie leur en avait tracé la route. S'ils n'avaient plus la foi qui les menait à la délivrance du Saint-Tombeau, ils avaient l'intrépidité des croisés, la croyance des royaumes et des beautés qu'avaient créées autour de Godefroy les chroniqueurs et les troubadours. Les soldats vainqueurs de l'Italie avaient vu un riche pays à prendre, des caravanes à détrousser, des chevaux, des armes et des sérails à conquérir. Les romanciers avaient aperçu la princesse d'Antioche, et les savants ajoutaient leurs songes à l'enthousiasme des poètes. Il n'y a pas jusqu'au voyage d'Anténor qui ne passât au début pour une docte réalité. On allait pénétrer la mystérieuse Égypte, descendre dans les catacombes, fouiller les pyramides, retrouver des manuscrits ignorés, déchiffrer des hiéroglyphes et réveiller Thermosiris. Quand, au lieu de tout cela, l'Institut en s'abattant sur les pyramides, les soldats en ne rencontrant que des fellahs nus, des cahutes de boue desséchées, se trouvèrent en face de la peste des Bédouins et des Mamelouks, le mécompte fut énorme. Mais l'injustice de la souffrance aveugla sur le résultat définitif. Les Français semèrent en Égypte ces germes de civilisation que Méhémet a cultivés. La gloire de Bonaparte s'accrut, un rayon de lumière se glissa dans les ténèbres de l'islamisme, et une brèche fut faite à la barbarie.